Bonjour à toutes et à tous. C'est une vraie joie de vous retrouver encore cet après-midi pour ce culte de Pentecôte. Et bienvenue en particulier à vous qui nous rejoignez depuis peut-être quelques semaines. Et comme cela a été annoncé, eh bien nous allons bientôt passer du statut d'église confinée à église déconfinée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et encore une fois, merci David pour la lecture. Le texte était long, mais c'est un texte aussi bien connu. Et c'est vrai que durant les temps de culte, nous avons besoin d'entendre particulièrement la parole de Dieu toucher nos cœurs. Pour revenir sur le sujet de l'Église, depuis combien de temps l'Église de Saint-Maur existe-t-elle? Alors, d'après ce que m'a raconté Pasteur Nguyen, cela ne fait pas encore 20 ans que l'Église de Saint-Maur existe. Qu'elle a été implantée là. Mais en réalité, si nous nous intéressons à l'histoire de l'Église en général, il faut remonter au jour de la Pentecôte. Alors, on va juste afficher la frise que j'ai préparée pour que vous puissiez avoir cela sous les yeux. Nous avons vu la semaine dernière que l'ascension de Jésus ne signifiait pas la fin de l'histoire. Entre l'ascension et la Pentecôte, il y a 10 jours qui se sont écoulés. Et le moment tant attendu, la promesse du Saint-Esprit arrive à ce moment-là. Les apôtres sont réunis et ils ne savent pas ce jour-là, ils ne savent pas encore en tout cas, que cette promesse va se réaliser. Et c'est précisément à la Pentecôte que l'Esprit promis par Dieu va descendre sur eux. Et pour bien comprendre aussi pourquoi il y avait foule ce jour-là, il faut rappeler que la Pentecôte, à ce moment-là, était la fête juive où on remerciait Dieu pour la moisson des céréales. Et traditionnellement, on fêtait également le jour où Dieu avait donné sa loi sur le mont Sinaï. Et donc cette fête de pèlerinage faisait venir des Juifs du monde entier. Et à l'époque, le monde entier correspondait à peu près à l'Empire romain. Et donc cette fête était aussi importante que la Pâque, 50 jours avant, qui était aussi une fête de pèlerinage où les Juifs se réunissaient à Jérusalem. Et c'est donc à la Pentecôte, à cette fête-là, que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Ce moment historique marque le début d'une nouvelle étape dans l'histoire que Dieu est en train de conduire et dont vous avez la frise ici. C'est à ce moment-là que nous pouvons situer précisément la naissance de l'Église. Et le livre des Actes s'adresse à un certain Théophile, dont nous savons très peu de choses. Luc semble répondre aux interrogations qui sont encore existantes chez Théophile et chez d'autres chrétiens probablement. Et parmi ces questions, nous avons peut-être celle-ci qui va s'afficher à l'écran. La question est la suivante, je l'ai tirée d'une introduction au Nouveau Testament. Quel mouvement entre la voie chrétienne ou le judaïsme pouvait légitimement se prétendre héritier du peuple de Dieu de l'Ancien Testament? Pour le dire autrement, qui des Juifs ou des chrétiens pouvait revendiquer d'être le peuple de Dieu à l'époque de Luc et de Théophile? Et il me semble que le texte de cet après-midi répond clairement à la question. Acte 2 nous donne l'enseignement suivant. Comme il l'avait promis, Dieu a envoyé son esprit pour que quiconque croit en Jésus fasse partie de son peuple. Comme il l'avait promis, Dieu a envoyé son esprit pour que quiconque croit en Jésus, son peuple. Et ce nouveau peuple en question, c'est bien sûr les chrétiens. Et pour d'autant mieux apprécier ce que Dieu a fait ce jour-là, je vous propose d'examiner 3 temps forts de l'action de Dieu dans notre récit. Le premier temps fort, quand Dieu parle. Ensuite, quand Dieu appelle. Et puis enfin, quand Dieu sauve. Donc, nous allons examiner ensemble ces 3 temps forts de l'action de Dieu dans notre récit. Commençons par quand Dieu parle. Et pour cela, je vous propose de visionner une petite vidéo.
John, wake up, all of you. Wake, come.
What are we doing? We're praying.
Thank you. hallowed be your name. Your kingdom come.
Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we have also forgiven our debts. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done.
Now we can leave this place. Now spread his word.
Voilà, une scène visuelle pour juste vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce que bon, ça pouvait être. Bien sûr, c'est juste une reconstitution, mais déjà très impressionnante. Cet épisode, celui que nous avons visionné, est l'unique moment que nous retenons de la Pentecôte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le thème de la parole fait une entrée fracassante dans le chapitre 2. Ce jour-là, les 12 apôtres au complet se retrouvent ensemble, comme à leur habitude, au même endroit. Et soudain, le Saint-Esprit remplit les apôtres qui se mettent à parler non plus dans leur propre langue, mais dans des langues étrangères. Et quand Dieu parle, il ne le fait pas toujours de manière aussi spectaculaire. Mais ce jour-là, il était évident que ce qui était en train de se passer était une manifestation de Dieu. Ce bruit qui vient du ciel comme un vent violent. Ces langues de feu qui apparaissent. Les disciples qui se mettent à parler en langue. Il y a peut-être d'ailleurs un jeu de mots avec le mot langue. Les langues de feu et puis les disciples qui se mettent à parler en langue. Et Luc met en évidence qu'à ce moment-là, l'intention de Dieu est qu'il veut parler aux hommes. Nous avons ici ce lien entre l'action de l'Esprit qui remplit les apôtres et la parole. Et ce lien est évident dans notre texte. Les apôtres reçoivent une nouvelle capacité linguistique qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils n'étaient pas capables de parler ces langues. Et chacun reçoit cette capacité comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer, verset 4. Et encore une fois, nous avons ici le lien entre l'esprit et la parole. Un autre élément qui développe aussi ce thème de la parole, c'est le fait que les apôtres sont compris par les témoins de la scène. Les Juifs qui étaient présents ce jour-là, ce jour de Pentecôte, et qui venaient de différents pays, comprenaient ce que disaient les apôtres. Et Luc répète à 3 reprises cette idée. D'abord, au verset 6, ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça, c'est la première occurrence. Ensuite, le verset 8, comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Et puis, le verset 11, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Donc, une répétition, une insistance de la part de Luc qui nous montre que ce jour-là, particulièrement, Dieu voulait s'adresser à chacun, quel que soit son pays d'origine. Dieu parle avec clarté à travers le message des apôtres. Et plusieurs spécialistes ont noté que nous avons ici un renversement de l'histoire de la tour de Babel. Nous lisons cette histoire de la tour de Babel dans Genèse 11, cette tour de Babel que les hommes avaient ambitieusement voulu construire pour se faire un nom, pour se faire une réputation. Mais Dieu n'a pas du tout apprécié ce projet et a donc confondu leur langage. À une époque où ils parlaient tous la même langue, Dieu a confondu leur langage pour qu'ils ne puissent plus se comprendre entre eux et qu'ainsi, ils cessent la construction et se dispersent. Ça, c'est pour l'histoire de la tour de Babel. Mais ici, dans Acte 2, c'est un renversement auquel nous assistons. C'est Dieu qui intervient pour s'adresser à chacun dans la langue qu'il comprend. Et au lieu de disperser, Dieu rassemble. C'est ce que nous voyons aussi au verset 6. Dieu rassemble. Et en tout cas, l'intention de Dieu de parler à toutes les nations est clairement exprimée ici. Et j'aimerais juste ajouter encore un dernier détail pour un peu enfoncer le clou par rapport à ce thème de la parole. Ce qui montre le plus clairement que Dieu veut s'adresser à toutes les nations, c'est la précision que Luc apporte au sujet de l'identité des Juifs qui étaient présents à Jérusalem. Au verset 5, nous lisons qu'il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Voilà une précision intéressante que Luc nous apporte. Des Juifs qui sont venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. On peut se demander pourquoi cette précision. Et même si ces gens sont juifs de naissance ou par conversion, ce qu'on appelle les prosélytes, ils viennent de régions différentes et n'ont donc pas la même langue maternelle. Pourtant, ce jour-là, ils comprennent ce que les apôtres sont en train de dire. Et puis ensuite, un peu plus tard, dans les versets 9 à 11, nous avons une énumération des nations qui sont représentées. Et il n'y a pas moins de 14 origines différentes mentionnées ici. Luc prend la peine de le mentionner. Il aurait pu ne pas le faire. Et la carte que vous allez avoir sous les yeux vous montre que ces hommes pieux venaient des quatre coins de l'Empire romain, très précisément. Et imaginez, pour certains qui ont fait un très long voyage et qui n'allaient pas du tout s'attendre à vivre une journée aussi exceptionnelle. Mais voilà, ces gens qui viennent des quatre coins de l'Empire romain. Clairement, l'intention de Dieu est qu'il veut s'adresser à toutes les nations. Mais pour l'heure, le phénomène du parler en langue prend fin, comme nous l'avons vu aussi dans la vidéo, et seul Pierre va prendre la parole à partir du verset 14. Et donc, animé par le Saint-Esprit qui vient de descendre sur les apôtres, Pierre, le leader du groupe, devient le porte-parole de Dieu. Il interpelle la foule avec autorité. Au verset 14, nous voyons « Comprenez ce qui se passe, dit-il à la foule, et prêtez l'oreille à mes paroles. » Pierre va donner l'explication de ce qui vient de se passer. Et c'est vrai que ça devait paraître vraiment bizarre pour les gens de l'époque. Il donne l'explication d'abord en écartant la supposition qu'ils étaient ivres. Et ensuite, en faisant cette citation du prophète Joël, une citation d'une prophétie qui était dans l'Ancien Testament, Pierre livre à ses auditeurs la clé de compréhension qui leur manquait. Pour dire la chose suivante, ce qui vient de se passer est en fait l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait annoncé 800 ans auparavant. Et donc, vous retrouvez cette citation dans Joël chapitre 3, des versets 1 à 5. 800 ans auparavant, Dieu avait promis qu'il déverserait son esprit, et c'est bien sûr une image, le fait de déverser son esprit, sur tous les membres de son peuple. Fils et filles, jeunes gens et vieillards, serviteurs et servantes, tous seraient remplis du Saint-Esprit pour prophétiser, c'est-à-dire pour annoncer des paroles de la part de Dieu, ou bien pour avoir des visions. Et le jour de la Pentecôte, 800 ans après cette prophétie, comme Dieu l'a promis, il a envoyé son esprit. Et les premiers bénéficiaires sont les apôtres. Et nous pouvons retenir de cela que quand Dieu parle, par rapport à cette prophétie, quand Dieu parle, il tient parole. Nous pouvons nous fier à sa parole. Quand Dieu parle, il tient parole. Et la citation de Joël s'arrête à ces derniers mots. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et ça, c'est une merveilleuse transition pour parler de Jésus. Parce que Qui est le Seigneur à qui il faut faire appel pour être sauvé, si ce n'est Jésus ? Et donc, toujours animé par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va démontrer que Jésus est effectivement Seigneur dans les versets 22 à 36. Et tout ce passage concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui est le cœur de la prédication de Pierre. Et si on passe en revue très rapidement ce passage, nous voyons au verset 22 qu'il est question du ministère de Jésus et des miracles qu'il a accomplis. Nous voyons au verset 23 qu'il est question de sa mort, qui était à la fois un projet de Dieu pour le salut des hommes, pour le salut des pécheurs, et en même temps un horrible projet des hommes qui l'ont fait crucifier. À la fois un projet de Dieu pour le salut des hommes et un horrible projet des hommes qui l'ont fait crucifier. Ensuite, il est question également de sa résurrection, du verset 24 jusqu'au verset 32. Et vous voyez que Pierre prend le temps de démontrer par les Écritures, et on parle du psaume 16, que Jésus devait ressusciter. Un homme saint comme Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Et avec les autres apôtres, Pierre en est témoin. Et puis enfin, des versets 33 à 35, il est question de son ascension, que nous avons vu aussi la semaine dernière. Jésus devait monter au ciel pour envoyer le Saint-Esprit. Et c'est désormais chose faite. Tous ces éléments sur l'identité de Jésus aboutissent à une conclusion au verset 36 qui est à la fois merveilleuse, mais aussi qui est terrible à entendre. La conclusion est la suivante. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus. Ça, c'est pour la partie merveilleuse. Mais la partie terrible à entendre, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Et la réaction de la foule au verset 37 montre que Dieu vient de parler à leur cœur. Quand Dieu parle, il bouleverse le cœur. Dans une version plus littérale, nous lisons qu'ils eurent le cœur transpercé. L'Esprit Saint a touché précisément ces Juifs qui se sentent désormais coupables, coupables de ne pas avoir reconnu en Jésus le Messie promis. Et donc, ils demandent au groupe des apôtres, « Frères, que doit-on faire ?» L'Esprit Saint qui a agi pendant le discours de Pierre a conduit ces gens de la foule, à reconnaître leur besoin d'être sauvés. Que doit-on faire ? Ils sont bouleversés intérieurement par ce qu'ils viennent d'entendre. Et c'est ce qui se passe quand Dieu parle. Le jour de la Pentecôte, Dieu a parlé de cette manière et il continue de parler encore aujourd'hui. Et je ne sais pas si cet après-midi vous entendez sa voix, non pas de manière audible, mais au niveau de votre cœur, intérieurement. Je ne sais pas si vous vous sentez interpellé en ce moment. Nous avons vu son intention. Dieu, dans sa grâce et dans son amour, veut s'adresser aux êtres qu'il a créés à son image, les êtres humains, femmes et hommes. Dans quel but ? Afin qu'ils le connaissent, afin qu'ils connaissent celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est un message qu'il veut adresser à toutes les nations, comme nous l'avons vu. Et cela signifie que tu es concerné. Je le suis également. Si Dieu continue de nous parler aujourd'hui comme il le fait avec ce texte, cela veut dire que nous devons être attentifs, que nous devons l'écouter comme l'ont écouté ces Juifs. Il en va de ton salut comme du leur. Et à l'époque, le message était donné à l'oral, mais aujourd'hui, nous avons une trace écrite de ce message dans la Bible. C'est par la Bible, la parole de Dieu, que Dieu se révèle à nous aujourd'hui. Soyons disposés à l'écouter et à l'écouter jusqu'au bout. Donc nous avons vu le thème de la parole qui occupait une place importante dans le chapitre 2 du livre des Actes. Et la vérité profonde que nous devons retenir dans ce passage-là, c'est que Dieu veut parler à l'humanité pour lui adresser un message clair. Dieu veut parler aux hommes que nous sommes. Et c'est pour cela que j'aimerais aborder le deuxième temps fort, que quand Dieu appelle, quand Dieu appelle, nous venons de le voir, les auditeurs de Pierre sont désemparés. Que devons-nous faire? Et Pierre leur explique ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent savoir pour être sauvés. Verset 38. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce que Pierre annonce ici n'est pas tout à fait nouveau parce que Jésus lui-même lançait déjà cet appel. Et nous lisons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, verset 15, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà ce que proclamait déjà Jésus lorsqu'il était encore sur terre. Et Pierre s'inscrit dans la continuité de son maître. Il appelle ses contemporains à changer. Alors qu'est-ce que ça veut dire changer? Eh bien, c'est renoncer à sa vie actuelle de pécheur. Une vie actuelle qui est sans Jésus-Christ pour pouvoir se tourner vers Jésus, pour se soumettre à son autorité, pour le reconnaître comme sauveur et comme Seigneur. Et les auditeurs de Pierre ont déjà fait un bon bout de chemin en éprouvant de la culpabilité, comme nous l'avons vu au verset 37. Mais cela ne suffit pas de se sentir coupable. Ils doivent encore changer, décider de changer l'orientation de leur vie et ainsi manifester d'une manière publique leur foi par le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que Dieu parle cet après-midi, et il est certain que ces paroles de Pierre s'adressent à toi si tu ne t'es pas placé du côté de Jésus. Ces paroles de Pierre s'adressent à toi si tu as jusque-là mené une vie sans reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Change d'attitude, change de vie. Il y a une autre manière de vivre qui est de tenir compte de Jésus-Christ. Et si Jésus est mort à la croix, comme nous l'avons vu, c'était le projet de Dieu pour te sauver. À la croix, Jésus a porté le poids de tes péchés. Nous l'avons chanté aussi. Et de tout ce que tu as fait de mal. Et il a été puni. Jésus a été puni à ta place pour que tu aies la possibilité d'être pardonné par Dieu. Et bien plus, Jésus est ressuscité et peut ainsi t'accorder la vie. C'est à tout cela que Pierre fait allusion. Et le pardon des péchés n'est possible que si la dette a été payée, si un innocent a déjà payé pour un coupable. Mais cela ne s'arrête pas là. Je disais que ce que Pierre annonçait n'était pas tout à fait nouveau, mais en même temps, il y a une nouveauté ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Pierre ajoute, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Donc, le Saint-Esprit n'était pas juste réservé aux apôtres. Il est donné à quiconque croit, conformément à la prophétie de Joël. « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. » Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Ce don signifie que Dieu demeure désormais en chaque croyant. Et l'enseignement biblique nous apprend que l'esprit est donné aux croyants pour les transformer, pour que peu à peu ils ressemblent à Jésus, pour qu'ils reçoivent la capacité d'obéir à Dieu comme Dieu le désire, vraiment. Et Pierre continue au verset 39, « En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » La promesse de Dieu, contenue notamment dans la prophétie de Joël, la promesse de Dieu est pour eux, les Juifs, et aussi pour tous ceux qui sont au loin, les non-Juifs, c'est-à-dire vous et moi. Le don du Saint-Esprit est un merveilleux cadeau. C'est une grâce immense pour des êtres pécheurs comme nous. Est-ce que nous en prenons conscience? Que Dieu a réalisé sa promesse ce jour-là et qu'il a fait de même envers nous qui croyons. Et Pierre le dit clairement au verset 39, c'est le Seigneur qui appelle. Et quand Dieu appelle, que se passe-t-il? Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Quand Dieu appelle, des femmes et des hommes se tournent vers lui, se convertissent, répondent à son appel. Et cet appel de Dieu par la bouche de Pierre est tellement efficace qu'environ 3000 personnes deviennent chrétiennes ce jour-là. Alors, Luc ne le mentionne pas explicitement ici, mais il est clair que cette conversion massive est l'œuvre de l'Esprit. Autrement, ce ne serait pas possible. Comment expliquer un aussi grand nombre de convertis, si ce n'est l'œuvre du Saint-Esprit? Et si tu places ta confiance en Jésus et en ce qu'il a fait, tu seras non seulement pardonné de tes fautes, mais tu recevras également le Saint-Esprit qui indiquera que désormais, tu appartiens à Dieu, que tu fais partie de son royaume. Et pour celles et ceux d'entre nous qui avons déjà placé notre foi en Jésus-Christ, il reste encore cette promesse, toujours actuelle, pour tous ceux que Dieu appellera. Prions ensemble, prions le Seigneur, supplions le Seigneur qu'il appelle à lui les personnes que nous connaissons et qui ignorent qu'elles ont besoin d'être sauvées. L'appel de Dieu est efficace. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit est tout-puissant. Il peut convaincre n'importe quel pécheur. Prions, supplions Dieu, alors que nous avons dans notre entourage des membres de notre famille, des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons des collègues, des amis, des voisins qui ignorent tout de l'Évangile. Prions, supplions que Dieu les appelle. Et s'il le veut, en nous utilisant pour partager le message de l'Évangile. Mais il faut que Dieu les appelle. Nous avons abordé les deux premiers temps dans le chapitre d'Actes 2. Quand Dieu parle et quand Dieu appelle. Mais que se passe-t-il quand Dieu sauve? Imaginez si à l'époque, il y avait des journaux. Quel gros titre ferait la une par rapport à cet événement? Conversion massive à Jérusalem. Une nouvelle communauté est née. Ou encore un autre titre, multiplication des disciples. Le jour de la Pentecôte, Dieu n'a pas fait les choses à moitié. Ce jour-là, il s'est formé un nouveau peuple. 3000 personnes environ en un seul jour. Et le dernier verset de notre texte indique que Dieu a continué chaque jour son œuvre pour que ce peuple soit toujours plus nombreux. Qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun? Alors, beaucoup de choses, à commencer par le fait qu'elles ont toutes reçu le Saint-Esprit. Et l'effet produit ne se fait pas attendre. Ces nouveaux convertis mènent une nouvelle vie. Est-ce qu'ils mènent leur nouvelle vie seuls dans leur coin? Non. Ils mènent cette nouvelle vie ensemble, les uns avec les autres. Et c'est ce qui explique tout ce qui est décrit entre les versets 42 et 47. Et j'aimerais encore une fois relire ces versets qui nous rappellent les premiers temps de l'Église. Verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Cène durant les repas, et dans les prières. » Verset 44, « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. » Verset 45, « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. » Verset 46, « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Et puis verset 47, « Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. » Je laisse juste un temps pour digérer ce que nous venons de lire. Ils commencent à mener cette vie communautaire, à vendre leurs biens et à répondre aux besoins des uns et des autres. Comment cela est-il possible que des inconnus se mettent ensemble pour vivre une telle chose? Comment l'expliquer si ce n'est par la présence et l'action du Saint-Esprit dans ces nouveaux croyants? Et aujourd'hui encore, l'Esprit agit dans les églises là où règne l'amour fraternel, là où règne la solidarité, là où règne la persévérance dans l'enseignement biblique, dans la communion, dans la scène et dans les prières. L'Esprit est là où les chrétiens agissent d'un commun accord. L'Esprit est à l'œuvre quand les chrétiens s'unissent pour louer Dieu. Quand Dieu sauve des femmes et des hommes, c'est ce qui se passe. Ils se mettent ensemble. Ils sont directement intégrés au corps de Christ, qui est l'image pour parler de l'Église. Le corps de Christ, c'est l'image pour parler de l'Église. Et pour le dire encore autrement, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, elle est intégrée au peuple de Dieu. Le Seigneur sauve des individus, c'est vrai. La conversion dans la foi chrétienne doit être personnelle, c'est vrai aussi. Mais le fait de recevoir le même esprit, et on est d'accord qu'il n'y en a qu'un seul, le fait de recevoir le même esprit nous rend automatiquement solidaires les uns des autres. Et plusieurs textes de l'apôtre Paul peuvent nous aider à encore plus saisir la beauté de ce que Dieu a accompli en envoyant son esprit. Je vous propose de les lire ensemble. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. » Voilà une image intéressante. Nous avons tous bu à un seul esprit, comme une même coupe. Éphésiens chapitre 4, verset 3 à 4, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un seul corps et un seul esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Non pas de créer cette unité, mais de la conserver, car cette unité existe déjà. Et enfin, Éphésiens chapitre 2, verset 22, « Et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'esprit. » Un seul corps, parce qu'il y a un seul esprit, parce qu'il y a un seul Seigneur. Et le contexte de l'épidémie que nous vivons actuellement et que nous avons vécu les mois précédents a mis à rude épreuve la vie de toutes les églises de France et d'ailleurs. Nous avons maintenu nos activités tant bien que mal par l'application Zoom. Culte, groupe de maison, réunion de prière, groupe de jeunes, groupe fraîche et toutes les réunions, les formations que nous avons pu organiser. Et dans un sens, nous avons persévéré. Nous étions dispersés, et nous le sommes encore aujourd'hui, mais par la technologie, nous pouvions rester connectés un minimum. Mais maintenant qu'un retour à l'Église est envisagé, à quoi va ressembler l'Église de Saint-Maur ? Avons-nous pris le temps durant le confinement de revoir nos priorités dans la vie? Je sais que pour certains d'entre vous, c'était l'occasion. Ce confinement, c'était l'occasion de revenir à l'essentiel. Mais nous l'avons peut-être fait chacun dans notre coin. Peut-être que nous nous sommes habitués aussi à vivre notre vie chrétienne seule et ponctuellement en groupe dans la semaine. Mais maintenant, considérons le projet de Dieu qui consistait le jour de la Pentecôte à donner naissance à l'Église, à donner naissance à un nouveau peuple avec des Juifs et plus tard des non-Juifs. Un peuple, Dieu habite par l'Esprit. Est-il encore envisageable, dans ces cas-là, de vivre notre foi seule dans notre coin? Je crois que cette pensée de se dire qu'on peut vivre sa foi tout seul dans son coin ne s'aligne pas sur la pensée biblique. Dieu nous veut unis, comme l'illustre la vie des premiers chrétiens. Alors, frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous à notre retour à l'Église. Bien sûr, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan spirituel. Dieu ouvre la porte pour que les chrétiens reprennent le chemin de l'Église. Et je sais que certains d'entre nous se posent des questions à ce sujet. Et je crois que notre foi est mise à l'épreuve. Allons-nous prendre ce risque de revenir à l'Église alors que le virus circule encore? Mes amis, le texte de cet après-midi nous présente ce que Dieu a fait de merveilleux au sein de l'humanité, en rassemblant par son esprit des hommes et des femmes qui deviennent des disciples de Jésus. Et nous sommes aussi de ses disciples. Alors préparons-nous dans la prière à revenir, à vivre de nouveau la communion fraternelle, même si ce sera forcément différent. Même si ce sera forcément avec des distances, avec des masques, et même avec un temps beaucoup plus court qu'avant. Mais soyons tout simplement une communauté qui laisse le Saint-Esprit agir dans notre contexte actuel. Alors même s'il nous arrivait d'oublier l'âge de notre Église, l'Église de Saint-Maur, nous nous souvenons au moins, avec la Pentecôte, que l'Église dont Jésus-Christ est le chef, dont Jésus-Christ est le roi, que l'Église a environ 2000 ans d'existence. Les chrétiens forment le peuple de Dieu, même si malheureusement, au cours de son histoire, l'Église a connu beaucoup de divisions. Mais je vois quand même, ici ou là, l'effort de conserver l'unité que donne l'Esprit. Ce matin encore, l'AECM, notre union d'Église, a proposé un culte national avec de nombreux intervenants issus de différentes églises. Et tout ça symboliquement le jour de la Pentecôte. Donc des efforts sont réalisés. Mais des efforts restent encore à réaliser. Alors cet après-midi, souvenons-nous d'Actes chapitre 2. Comme il l'avait promis, Dieu a envoyé son esprit pour que quiconque croit en Jésus fasse partie de son peuple. Non pas qu'il soit tout seul, mais qu'il fasse partie de son peuple. Et nous avons passé en revue trois temps forts qui sont relatés par Luc. Quand Dieu parle, il vaut la peine de tendre l'oreille pour écouter, parce qu'il en va de notre salut. Quand Dieu appelle au changement, au salut en Jésus-Christ, il nous faut répondre et prier que d'autres soient appelés à leur tour. Et quand Dieu sauve et répand son esprit, eh bien ça donne l'Église. Une communauté nouvelle, une vie nouvelle, un peuple nouveau constitué de celles et ceux qui ont pour Seigneur Jésus-Christ. Et notre meilleure réponse à la parole de Dieu, à la parole que nous avons lue cet après-midi, est de vivre l'Église comme Dieu l'a voulu au départ, c'est-à-dire tous ensemble, unis par l'Esprit-Saint. Persévérant dans la communion, persévérant dans la prière, persévérant dans l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Nous avons reçu l'Esprit de Jésus-Christ pour former un même corps, pour vivre l'Église. Dieu a envoyé son Esprit pour que quiconque croit en Jésus fasse partie de son peuple. Alors ma question c'est, veux-tu en faire partie ? Je vous invite à fermer les yeux et simplement à prendre le temps de répondre par la prière à notre Dieu. Nous te rendons grâce cet après-midi parce que nous avons entendu ta parole. Elle est claire. Elle est limpide. Elle nous parle de toi. Elle nous parle de ce que tu as fait le jour de la Pentecôte. Et nous savons, pour tous ceux d'entre nous qui bénéficient d'avoir ce privilège de te connaître, nous savons, Seigneur, que cela n'a pas été automatique, mais que tu as fait les choses par étapes. Que d'abord, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui a vécu, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à ta droite. Et nous te louons pour Jésus, qui effectivement a tout accompli pour notre salut. Et merci parce que tu nous as donné aussi ton esprit, afin que nous ne soyons pas livrés à nous-mêmes, mais que nous puissions toujours compter sur ta présence constante. Que nous puissions toujours compter sur le fait que nous appartenons tous déjà, en tout cas pour tous ceux d'entre nous qui croyons, nous appartenons tous déjà à ton peuple, à ton royaume. Nous sommes tous unis par le même esprit. Et c'est encore une réalité que nous avons besoin de vivre, semaine après semaine, année après année. Et même au-delà, lorsque Jésus reviendra, nous continuerons à vivre ensemble. Et ça, c'est une belle réalité que tu nous prépares, de pouvoir se retrouver pleinement, sans avoir à craindre la maladie, sans avoir à craindre la souffrance ou la mort. Oui, c'est l'espérance qui pointe devant nous et que tu places devant nos yeux, les yeux de la foi. Et nous attendons à toi, Seigneur, pour que tu réalises encore tes projets, ton plan. Ce que tu as commencé à la Pentecôte, tu le poursuis encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous savons, Seigneur, que tu achèveras pleinement ton œuvre avec le retour de Jésus. Alors oui, nous voulons prier comme nous l'ont enseigné les apôtres. Viens, Seigneur, viens. Amen.